Bonjour, ici Jean-Daniel Messinger qui vous propose le nouveau numéro de Chronique pour la paix sur Radio Shalom, émission bimensuelle parrainée par J-Call et La Paix Maintenant. Nous sommes aujourd'hui avec Jacques Bendelac. Bonjour Jacques Bendelac.
Oui, bonjour.
Bonjour. Jacques Bendelac, vous êtes économiste, journaliste et essayiste, auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier s'intitule « Les années Netanyahou » paru en 2022. On peut dire que vous êtes spécialiste de l'économie et de la société israélienne dans ses divers aspects, dont également l'économie souterraine et l'économie palestinienne. Alors cette guerre qui continue après une courte accalmie semble être le point d'orgue des années Netanyahou. La tension est extrême tant en Israël que dans les territoires palestiniens. Mais dans quel état se trouve l'économie israélienne au bout de 18 mois de guerre ?
C'est une économie qui est à bout de souffle, hein, parce que effectivement, une guerre particulièrement longue, comme le pays n'a jamais connue, une guerre qui crée beaucoup de coûts pour l'économie israélienne, hein, mais j'allais dire que c'est pas seulement le coût de la guerre en elle-même qui pèse sur l'israélien, hein, l'économie est résiliente, elle est forte, elle a les moyens de tenir le coup, mais c'est tout ce qui tourne autour, hein, c'est la réforme judiciaire qui continue, les tensions sociale, politique, la gouvernance de Netanyahou. J'allais presque dire que la politique économique du gouvernement n'est pas à la hauteur de la situation de guerre actuelle, qui est une situation tout à fait inédite. Et donc c'est ce cumul de tout ça qui fait que, eh bien, depuis deux ans, 2023 et 2024, l'économie d'Israël est à l'arrêt. Hein, ça fait deux ans que l'Israélien produit moins qu'il n'a produit en 2022. Hein. Ce sont, j'allais dire, les deux années les plus noires de l'économie israélienne depuis 20 ans. Hein. Parce que oui. tous les moteurs de l'activité sont à l'arrêt. Hein. Il n'y a plus d'investissement, d'exportation en baisse, le tourisme, tout ça est à l'arrêt. Et donc, l'activité est vraiment à l'arrêt depuis un an et demi, deux ans.
D'accord. Il y a des secteurs de l'économie qui sont plus touchés que d'autres
Absolument. Alors, tout a démarré, bien sûr, avec le début de la guerre dans le sud et dans le nord, qui sont des secteurs surtout agricoles. Hein, et donc, l'agriculture a été largement paralysée pendant longtemps. La main-d'œuvre qui a disparu, vous savez bien, les Palestiniens, les étrangers qui travaillaient dans la construction ont disparu. Et donc, la construction, le bâtiment a aussi un secteur qui en a pris un coup. Et puis, ça s'est étendu à toute l'activité, parce que vous savez, quand vous avez 800 000 familles déplacées, mobilisées, qui ne travaillent plus, eh bien, ce sont tous les secteurs qui sont à l'arrêt, y compris la technologie, les commerces, les indépendants, et donc, véritablement, le PIB a reculé par habitant en 2023 et 2024, chose qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps.
Est-ce que les droits de douane que Trump semble vouloir imposer à Israël auront un impact important ?
Ah, absolument, parce que Israël, les États-Unis pour Israël sont un partenaire très fort. Hein. Israël exporte le quart de ses marchandises vers les États-Unis. Hein. C'est un partenaire que peu de pays ont aussi fortement. Et donc, des droits de douane sur les exportations de marchandises vers les États-Unis, c'est 20 milliards de dollars par an, hein, de marchandises, c'est beaucoup d'argent. Et donc, si ça venait à se freiner, ça serait une cause, j'allais dire, une cause supplémentaire de récession pour cette année 2025 qui avait déjà mal commencé puisque la guerre se poursuit encore. Donc oui, il y a un contexte international qui est très défavorable à l'économie israélienne en ce début 2025.
Des grosses entreprises ont trouvé le moyen quand même d'engranger des bénéfices importants.
Alors, paradoxalement, effectivement, parce que un des facteurs qui a tenu le coup en 2024, ça a été justement la consommation des ménages. Les Israéliens ont essayé de maintenir leur normalité de consommation, donc ils ont continué de consommer. Et les grandes firmes, vous savez, en Israël, ce sont souvent des grands monopoles dans un petit peu tous les secteurs, la distribution, la banque, l'assurance, ont augmenté les prix, ont tiré un petit peu des profits à leur, pour eux, pour leurs actionnaires, et où les prix ont augmenté de façon très, très forte en 2024, sans aucune justification économique. L'inflation s'est redressée et on a vu comment les profits des grandes entreprises ont fait des bonds de 30, 40, 50% uniquement parce que ils ont, j'allais dire, entre guillemets, abusé de la situation, fait que le consommateur israélien, vous savez, eh bien, il ne vérifie pas toujours les prix en période de guerre, il n'a pas toujours le temps de faire les choses, etc. Et donc, oui, il y a des grandes entreprises qui ont abusé de cette situation de guerre pour empocher des profits tout à fait irrationnels.
Et donc, comment les Israéliens font face à cette situation de crise ?
Alors, écoutez, beaucoup n'y font pas face, justement, parce que beaucoup sont sans emploi. Hein. La mobilisation des réservistes redémarre. Il y a encore des familles déplacées. Alors, l'État aide comme il le peut et comme il le veut, mais il ne le veut pas beaucoup. Hein. Et donc, vous savez, on a vu récemment comment des rescapés de Gaza ont lancé des collectes de dons en ligne pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Nous avons un gouvernement qui suit une politique très libérale. C'est-à-dire que malgré la guerre, on essaie de dépenser le moins d'argent possible. Bon. Et donc forcément, alors on attend, on laisse traîner les choses, et puis quand on dépense de l'argent, on fait voter le budget 2025 avec 3 mois de retard. Hein. Le budget 2025 a été voté la semaine dernière, c'est-à-dire que pendant les 3 premiers mois de l'année, le gouvernement n'a pas eu l'argent correspondant aux besoins réels du pays. Et donc on a foulé dans les caisses, on a tenu le coup comme ça, on a bouché les trous, mais c'est pas véritablement une politique de relance, de financement dont le pays a besoin. Et donc oui, beaucoup d'Israéliens sont restés sur le carreau parce que quand ils sont revenus de l'armée, ben ils n'avaient plus de travail et donc ils étaient au chômage. Et donc voilà. La pauvreté est toujours très forte en Israël, elle va continuer à s'accroître.
Oui. Des moyens considérables sont donnés à la colonisation et aux religieux, alors qu'il y a beaucoup de besoins dans la reconstruction et l'indemnisation de personnes impactées par la guerre.
Absolument, absolument. Alors que quand je dis que l'État ne dépense pas, l'État ne dépense pas pour les besoins immédiats, les services publics, sociaux, santé, etc. Mais lorsqu'il dépense de l'argent, eh bien, il dépense de l'argent pour des dépenses qu'on peut appeler improductives, c'est-à-dire qui vont dans la colonisation, qui vont dans ce qu'on appelle ici les fonds de la coalition pour financer les partis politiques, pour financer les institutions religieuses, pour financer le non-enrôlement des Haredim dans l'armée, ce qui coûte aussi quelque chose de très cher. Donc il y a beaucoup de dépenses comme ça qui ne sont pas les dépenses auxquelles le pays a besoin. Hein. Le pays a besoin aujourd'hui des dépenses de reconstruction, de relance, de moteur de croissance. Et ça, non, ce n'est pas du tout l'objectif du gouvernement qui dépense de l'argent comme il en a envie pour justement, j'allais dire, maintenir la coalition le plus longtemps au pouvoir, en tout cas jusqu'à la fin de 2026.
Des réservistes refusent d'être à nouveau mobilisés. Quelle est la tendance ?
Alors, c'est vrai qu'il y a une tendance publique dans les grandes manifestations de refus d'être mobilisé. Moi, ce que je vois autour de moi, c'est que la mobilisation reprend et se maintient. Hein. Vous savez, un soldat de salle, quand on l'appelle, il va à son rendez-vous. Donc, je ne vois pas aujourd'hui de grandes vagues de démobilisation. Ce sont surtout les soldats qui se portaient volontaires à l'armée, hein, qui eux iront moins, mais ceux qui sont des réservistes officiels continuent d'y aller. Et là, j'entends déjà qu'il y a une nouvelle vague de redépart pour à l'approche des fêtes de Pessah. Et donc, oui, c'est une guerre qui va se prolonger et qui coûte beaucoup d'argent aux caisses de l'État. Oui.
Il y a des Israéliens qui quittent ou qui veulent quitter le pays. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Alors ça aussi, c'est une des retombées importantes de cette guerre. Hein. C'est qu'effectivement, on a vu qu'en 2024, 80 000 Israéliens ont quitté le pays définitivement. C'est un chiffre qu'on n'avait jamais vu. Hein. Le chiffre normal, c'est 20 000 par an. Quoi, hein. Là, 80 000 Israéliens qui ont quitté plus d'un an et qui ne sont pas revenus, c'est effectivement une des retombées de cette guerre, parce que beaucoup de ces 80 000 Israéliens qui ont quitté sont des jeunes à la recherche d'un emploi, souvent dans la technologie, qui sont attirés par des propositions à l'étranger, hein, et donc qui n'hésitent pas à aller refaire leur vie ailleurs si l'occasion se présente. Donc ça aussi, c'est une des retombées, peut-être la retombée, j'allais dire, économique et sociale à long terme, à laquelle le pays va devoir faire face, parce que ce ne sont pas des gens qui vont revenir aussi facilement qu'ils sont partis.
Bien sûr. Jacques Bendelak, vous avez écrit sur l'économie souterraine. Est-ce qu'elle profite de la guerre ?
Ah, absolument, absolument. L'économie souterraine en Israël, déjà, est forte par nature. Et là, bien entendu, elle se nourrit de phénomènes de la guerre, parce que beaucoup d'argent n'est pas déclaré, ne passe pas par des sphères reconnues. Beaucoup d'argent échappe à la fiscalité, aussi bien d'ailleurs dans le secteur en particulier dans le secteur religieux et haredi, qui draine des fonds souvent méconnus. Beaucoup de revenus des gens qui ne travaillent pas forcément finissent par travailler au noir. Donc une situation de guerre est une situation qui favorise le développement de cette forme d'économie souterraine qui en Israël était déjà forte et qui se renforce durant ces années de guerre, absolument.
Alors si cette guerre continue, quels sont d'après vous les risques économiques et sociaux ?
Alors la guerre, pour l'instant, se continue, puisqu'en 2025, les prévisions tablées sur une fin de guerre au premier trimestre, chose qui ne s'est pas passée, la guerre va se prolonger, donc elle va avoir un coût, bien entendu, financier sur le budget de l'État important comme elle a eu jusqu'à présent, mais elle aura aussi un coût social important, parce que la guerre, une guerre longue, ça veut dire davantage de pauvreté, qui est déjà fort, un phénomène fort en Israël, parce que notamment les secteurs qui sont touchés par la guerre sont souvent les secteurs et les populations les plus pauvres. Donc davantage de pauvreté, davantage d'inégalités sociales entre les riches et les pauvres, davantage de cherté de la vie, puisqu'on l'a vu comment les firmes en profitent pour augmenter leurs prix. Et donc oui, hein, le pouvoir d'achat de l'immense majorité des Israéliens qui va continuer de chuter sans doute si cette guerre se prolonge tout au long de 2025. Et d'ailleurs, toutes les prévisions économiques de la Banque centrale d'Israël, de l'OCDE, ont été revues à la baisse la semaine dernière, justement parce qu'on se rend compte que le niveau d'incertitude géopolitique, les retombées de la guerre avec toutes leurs conséquences, tout cela fait que on pensait avoir un redémarrage fort de l'activité en 2025. Apparemment, ce redémarrage va être remis à 2026. Donc 2025 va être encore une année un petit peu de stagnation, comme ça on va essayer de voir un peu comment finir l'année, mais c'est une année qui a mal commencé et qui risque aussi de mal se terminer.
Dans une récente tribune, vous avez fait un comparatif, hein, vous avez parlé de la faiblesse de l'économie liée à un régime autoritaire. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer ?
Oui, il y a aujourd'hui beaucoup de recherches qui montrent qu'il y a une relation entre la démocratie et l'économie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie sans démocratie, il n'y a pas de prospérité économique sans démocratie. Et ce qui s'est passé en Israël depuis la réforme judiciaire de 2023, c'est-à-dire la remise en cause de l'état de droit, hein, comme on le sait, la remise en cause de la démocratie, de la Cour suprême, etc., tout cela a fait que l'économie en a pris un coup, parce que les investisseurs ne sont plus venus, les Israéliens sont partis travailler à l'étranger, les débouchés étrangers se sont fermés, le tourisme n'est plus venu. Donc il y a eu des retombées économiques négatives à ce processus de l'état de droit qui a été bafoué et de la démocratie qui a été fragilisée depuis 2023. Hein. Donc ce n'est pas seulement la guerre, j'allais dire, qui coûte cher à l'économie, parce qu'on a les moyens de financer une guerre, mais ce sont surtout les retombées de l'affaiblissement de la démocratie qui menace aujourd'hui véritablement les performances économiques d'Israël, et l'Israélien le ressent au jour le jour, puisque quand son pouvoir d'achat diminue, quand les prix montent, eh bien c'est ça le résultat de cette tendance.
D'accord. Et pour conclure, alors, vous seriez plutôt, vous avez optimiste ou pessimiste ?
Je suis un petit peu sceptique pour 2025. Je pensais qu'elle serait une année meilleure que 2023-2024. Pour l'instant, il faut attendre de voir comment, à la fois du côté des droits de douane américains et comment du côté de la poursuite de la guerre, la situation va évoluer pour pouvoir faire preuve d'un petit peu plus d'optimisme que ne le font aujourd'hui la plupart des prévisionnistes israéliens.
D'accord. Ben, Jacques Bendalak, je vous remercie beaucoup et nous espérons que une issue prochaine donc à cette guerre et que l'État d'Israël puisse conserver une intégrité démocratique qui lui permette d'accéder à une paix équitable. Voilà.
Absolument. Merci. Démocratie et économie vont toujours ensemble.
Voilà. Merci beaucoup, Jacques.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.